Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview exclusive de Clap & Chat. Je me trouve au téléphone avec l'incroyable Dorothée Pousséo qui a accepté de nous accorder une petite interview. Alors Dorothée, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas peut-être que les gens ne connaissent pas ta voix, mais peut-être, non, ne connaissent pas ton nom, mais peut-être ta voix, pardon. Tu es une des plus grandes actrices de doublage en France, tout simplement j'ai envie de dire, hein. Pour que ça parle un peu plus aux auditeurs et aux éditrices qui nous écoutent, tu es notamment la voix française de Margot Robbie, de Vanellope chez Disney, Didi dans le laboratoire de Dexter, ça c'est pour les enfants des années 90 comme moi. Tu es aussi Anxiété chez Pixar, pour ne citer que quelques exemples parce que ta filmographie est assez impressionnante. Mais tu joues aussi au théâtre, au cinéma, à la télé, et ce n'est pas tout, tu es aussi directrice artistique de certains doublages. Bref, t'es un peu partout, nous ça nous fait extrêmement plaisir de t'entendre et de te voir. Donc je vais commencer par une question un peu d'intro. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans toutes ces activités ou est-ce que tu trouves que tout ça, c'est assez complémentaire?
Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que justement, c'est très varié. C'est que justement, pour l'hyperactive que je suis, c'est parfait parce que j'aime changer, d'avoir des journées très différentes tous les jours et de tourner une journée, le lendemain aller doubler, le surlendemain aller enregistrer un jeu vidéo, celui d'après... faire un habillage radio ou une pub, etc. Et c'est ça que j'aime le plus, en fait, dans ce métier, c'est de toucher un petit peu à tout et de d'avoir aucune journée qui se ressemble. Et, mon chien, excusez-moi.
C'est pas grave, t'inquiète pas.
Et c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et ensuite, c'était quoi l'autre question? Du coup, excuse-moi.
Est-ce que tout ça pour toi c'est assez complémentaire? Mais ça.
Pardon. Ah oui, alors c'est complètement complémentaire pour moi, selon moi, parce que c'est vraiment mon métier de comédienne que j'ai appris pendant 12 ans. J'ai fait 12 années de cours de théâtre et j'étais dans une école spécialisée qui s'appelait l'École des enfants du spectacle, une école à mi-temps. Et voilà. Et donc en fait, c'est vrai que c'est tout ça se rejoint. En fait, c'est vraiment du jeu. De l'acting, donc tout ça se rejoint en fait. Soit je passe de l'autre côté du micro et je dirige un film et en fait je dirige les acteurs et on parle de justement d'émotions, de rupture de jeu, etc. Soit moi-même je les mets en application et je suis moi-même comédienne et j'applique ce que j'ai appris pendant des années et donc en fait tout se rejoint et puis qu'on joue devant une caméra, derrière un micro, sur une scène, ou même derrière un jeu vidéo, ça se rejoint, c'est le métier d'acteur, donc pour moi c'est vraiment effectivement la même chose.
Et puis ça t'évite la monotonie, comme tu disais, là vraiment une variété de personnages tout le temps différents.
Oui, c'est sûr.
Nous, on s'est rencontrés à Angers il y a quelques mois dans le festival Chant contre Chant. Tu étais membre du jury court-métrage et tu étais également là pour un atelier de doublage que tu as animé. Alors déjà, merci d'être venue, c'était hyper chouette.
Et mais merci à vous, j'étais trop contente, c'était vraiment génial ce festival.
Bah, trop bien, moi c'était la première fois aussi, j'ai adoré.
Ouais, c'était super, hyper intéressant, puis les films projetés étaient de qualité, enfin c'était vraiment un bonheur.
Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi de venir dans ce genre de festival qui n'est pas de très grande ampleur, mais qui est important quand même pour les habitants.
Pour moi, c'est hyper enrichissant parce que je découvre plein de nouveaux talents, je rencontre plein de gens passionnants et on sort justement un peu de ce microcosme parisien pour aller parler de d'art, mais avec d'autres gens en dehors de sa ville. C'est un peu comme quand on part en tournée avec une pièce de théâtre ou la première d'un film, c'est génial. En fait, on rencontre plein de nouvelles personnes qui sont tout aussi passionnantes et passionnées que nous. Et donc, c'est un bonheur d'échanger avec eux, justement, d'échanger avec des nouvelles personnes.
Ok, trop bien. Actuellement, nous, au cinéma à Angers, on a Hurlevent, hein, comme dans beaucoup d'endroits en France. On en a parlé dans un ancien podcast, d'ailleurs, de l'émission, que vous pouvez retrouver sur radio-g.fr, si vous voulez. Et toi, tu y doubles Margot Robbie, tête d'affiche du film. Et ça me fait une transition parfaite pour parler, justement, de ton métier de comédienne de doublage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement du doublage? Comment ça se passe pour trouver une voix? Est-ce que tu es sûre d'être reprise sur chaque film de Margot Robbie, etc., etc.?
Alors non, on n'appartient pas du tout à nos acteurs américains. On n'est vraiment pas sûr de les doubler à chaque fois. Chaque film, je ne sais pas si je la doublerai. Et je ne l'ai pas toujours doublée d'ailleurs. J'ai doublé majoritairement, mais il y a 3-4 films où je ne l'ai pas faite dans toute ta carrière.
Si je peux te couper de plus, j'ai vu Amsterdam il y a quelques jours que j'avais loupé au cinéma et j'étais très étonnée de ne pas t'entendre au doublage.
Oui, alors ça en fait, Amsterdam, ils ont gardé la version canadienne.
Ok, d'accord, très bien.
Ils ont gardé la voix canadienne en fait, qui est très bien d'ailleurs, je la trouve hyper bien.
Oui, c'était
j'adore,
pas mal du tout.
Qu'elle fait dessus. Ah ouais, je la trouve vraiment super. Et voilà, donc bon, bah, c'était le choix de Disney. Ils ont gardé, ils adorent et ils ont gardé. Et je comprends très bien. Enfin, après, c'est comme ça. Hein, je fais ce métier depuis toute petite, donc j'ai l'habitude des échecs. En fait, je grandis avec justement l'habitude des échecs. On passe un casting, on est pris, on n'est pas pris. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein, c'est le concept. Donc, c'est vrai que. Évidemment, quand on les double pas, on se dit toujours, ah, bah, c'est dommage, surtout qu'au bout d'un moment, j'en suis à 15 ou 16 films avec elles, on commence un peu à les connaître, et donc ça fait toujours un peu de peine, évidemment. On se dit, ah, bah, tiens, je l'aurais bien doublé, j'aurais bien aimé continuer à la suivre. Et puis, bon, bah, si on la double pas, bah, c'est comme ça, hein. Enfin, je dirais pas. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je m'arrête pas trop sur ça, quoi.
Vas-y, ouais. Je t'en prie. Vas-y.
Non, et voilà, mais après. C'est vrai que ben là, j'étais vraiment contente de la retrouver pour le vent, parce qu'en plus, c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais ado. Moi, je suis un bébé des années 80, pas des 90. c'est vrai que c'était super. Alors, même si c'est très, très différent du livre, ça n'a même rien à voir. En fait, c'est complètement revisité. J'ai trouvé ça vachement... Alors, je sais qu'il a été pas mal critiqué... J'ai pas trop apprécié le film d'avant de Margot Robbie, comment ça s'appelait, Big Bold and Beautiful Journey.
Oui, avec Colin Farrell.
Voilà, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai trouvé ça très beau esthétiquement. Eux deux sont formidables, évidemment, c'est des super acteurs. Mais c'est vrai que j'ai pas eu une grande tendresse pour le film, un grand attachement pour le film. Mais là, par contre, sur le vent, moi, j'ai quand même vraiment aimé. J'ai aimé l'univers. C'est pas le film que je verrai trois fois, hein, parce qu'on a compris une fois qu'on l'a vu une fois, tu vois, où ils sont allés. Mais j'ai trouvé qu'esthétiquement, c'était magnifique.
Oui. Ouais.
J'ai trouvé la réal hyper intéressante. Et voilà, je trouvais ça très beau, en fait. Très, très beau. Mais bon...
Eh ben, tu
propre à chacun.
Oui, bien sûr. Alors, globalement, nous, on était d'accord dans l'équipe de trouver ça visuellement très, très joli, avec des choix et un parti pris esthétique qui était vraiment fort. Donc ça, c'est vraiment un point fort qu'on a retenu, nous aussi, dans l'équipe. Donc, on te rejoint là-dessus.
En fait, il faut le voir avec un œil neuf. Il faut surtout pas se dire, et pourtant, moi, qui étais plutôt une aficionado du bouquin, il faut surtout pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait des Hauts de Relevant ? Non. C'est comme un peu Roméo et Juliette avec DiCaprio, tu vois, c'est revisité. C'est complètement nouveau. Et parfois, je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'avais des copains qui me disaient « Ah là là, mais c'est horrible, attends, comment il peut avoir des flingues à cette époque ?» Tout ça. Je dis « Mais c'est tout le principe du truc, en
fait. » Oui, c'est ça.
C'est ça qui est génial, je trouve. Et après, on aime, on n'aime pas. Après, c'est les goûts, les couleurs des gens. Donc, moi, je respecte toujours ceux qui n'aiment pas. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que l'adaptation était assez culottée et complètement... vraiment magique, quoi.
Eh ben, tu as devancé un peu ma prochaine question, puisque je voulais te demander comment on fait quand on double un film qu'on n'a pas vraiment apprécié. Donc, t'en parlais avec Big Bold Beautiful Journey. Comment on se sent, comment on arrive à faire quelque chose de bien quand on n'est pas trop fan du film?
Ouais, c'est une très bonne question. Alors, j'avoue que quand c'est une très bonne comédienne, ça passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que même si Big Bold Beautiful Journey, j'ai pas plus accroché que ça, j'ai pas non plus détesté. Et puis, je doublais quand même dedans Margot Robbie qui, selon moi, joue vraiment hyper bien. Donc, c'est de toute façon toujours une leçon pour moi de la regarder jouer, d'étudier son jeu, d'essayer de le reproduire, etc. C'est toujours un bonheur. Donc, j'y prenais ce que j'avais à apprendre. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, en plus, qui voit plutôt le verre à moitié plein. Donc, je me disais, bon, le film, il m'emballe pas plus que ça. Mais ce qu'elle a fait là, ce qu'elle fait dans cette scène, ce qu'elle fait tout au long du film, ça m'intéresse, je trouve ça super. Et du coup, j'y trouvais du bon, tu vois. On va se raccrocher à autre chose.
Ouais,
comme tout dans la vie.
Du coup, voilà. C'est pas trop l'histoire, c'est plutôt le personnage en lui-même et l'acting.
Oui, voilà, je vais plus m'accrocher à son acting, à son jeu de comédienne, etc., que à l'histoire en elle-même. Voilà. Et par contre, quand c'est ni l'un ni l'autre, ça arrive, hein. Quand le film vraiment ne me passionne pas du tout... Et la comédienne non plus, et puis parfois ils sont pas pas très très bon aussi. Enfin, tu vois, c'est voilà, on doute pas toujours des gens extraordinaires. C'est pas facile. Et là, souvent, bah, on se raccroche au fait que déjà, bon, généralement, on aime notre métier, tu vois, donc on joue déjà, c'est une chance. On a du boulot, c'est aussi une chance parce que dans notre métier, le métier de comédien, c'est toujours un peu hasardeux. Hein, on ne sait jamais si on remplit le frigo à la fin du mois. Donc, c'est vrai que bah, on se dit toujours, bah, déjà, je suis là, j'ai du boulot, je suis là, c'est génial. Et puis en plus, on se raccroche souvent avec l'équipe parce que c'est une joyeuse équipe en doublage. On est maintenant à peu près 7000 à faire du doublage. Okay. Mais en fait, tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Tu vois, parfois, il y en a que tu vois de loin, mais d'un coup, sur une série, tu vas te retrouver avec eux souvent au micro. Tu vas apprendre à les connaître et puis t'attacher, créer des nouvelles amitiés. C'est quand même une belle bande de comédiens. Il y a des nouveaux qui arrivent tous les jours, puisque d'ailleurs, j'ai monté une école de doublage avec Kelly Marot qui s'appelle Dub School. Qu'on a ouverte il y a 2 ans et on découvre des nouveaux talents chaque semaine et c'est vraiment, enfin chaque semaine, on ne fait pas des formations toutes les semaines non plus, mais chaque mois on va dire, et c'est vraiment super de découvrir de nouvelles personnes, d'élargir dans le métier et donc voilà, on va se raccrocher toujours à cette bonne ambiance, à des moments sympas en studio, même si le produit n'est pas transcendant et qu'on n'est pas passionné par ce qu'on double, je pense que comme certains comédiens, hein, tu vois, il y a certains comédiens qui tournent dans certaines séries qui ne sont pas forcément exceptionnelles en termes de texte, d'histoire, etc. Mais ils se raccrochent aussi avec une super bande d'acteurs avec qui ils tournent, avec qui, comme sur scène, hein, ça m'est déjà arrivé de jouer des pièces qui sont bon, sympas, mais ce n'est pas non plus, du Shakespeare, quoi. Mais on est une super bande, on rigole, on partage des moments de joie sur scène, on partage avec le public, on rit, en fait, c'est ce qui nous fait vibrer, je pense, encore plus que les mots qu'on va interpréter.
Ouais, en fait, tu prends le positif là où il est.
Ouais, exactement. Voilà.
Rémi me dit, est-ce que je peux poser une question ? Donc, je te laisse poser la question, Rémi.
Dis-moi.
Merci, Dorothée, déjà d'être sur Radio G. Hein. C'est un honneur de t'avoir. Dorothée, tu parlais de ton école que tu as ouverte. Quels sont les prérequis pour rejoindre ton école si demain, on a des auditeurs qui vont écouter cette interview qui veulent se lancer dans le doublage?
Alors, nous, notre prérequis indispensable, c'est qu'on prend déjà des comédiens. Ils sont déjà comédiens. Alors, on ne demande pas, évidemment, si tu as 18 ans et que tu as fait 3-4 ans d'école de théâtre, on ne va pas te demander d'avoir tourné 25 films, tu vois, évidemment. Mais on prend vraiment que des comédiens parce qu'en fait, le problème du doublage, qui est une branche de notre métier, c'est que c'est un métier qui te demande une immédiateté assez compliqué. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils disent « Ah, ça a été mal doublé et tout », mais ils se rendent pas très bien toujours compte aussi dans quelles conditions on travaille. C'est-à-dire que quand tu tournes un film, tu as ton scénario 2, 3, 6 mois à l'avance, parfois même 1 an pour des gros films, et que tu bosses ton texte, tu le bosses avec des coachs, tu l'apprends par cœur, tu l'intègres, tu le digères, tu vois, en tant que comédien, et tu le reproduis, mais tu l'as bossé énormément. Chaque scène a été bossée pendant des mois. Alors que quand tu doubles, t'arrives à 9h30 le matin, enfin 9h20, quoi, avant de commencer, tu commences à 9h30, tu ne sais même pas ce que tu vas doubler. Tu sais même pas si c'est un film ou un dessin animé, tu vois. Donc c'est hyper dur parce que t'arrives, t'es dans un schwarz total et là on t'explique, en 3 minutes, on t'explique un film entier de 2 heures. On te dit, bah, ton personnage, il est comme ça, on te donne 3 informations. Et là, tu regardes la scène 2 fois et c'est à toi. Donc, si tu veux, tu as une immédiateté. C'est pour ça que c'est beaucoup de comédiens qui viennent du théâtre, beaucoup de comédiens qui viennent de la Ligue d'impro aussi. Parce qu'il faut cette faculté à très, très vite rentrer dans les émotions, etc. À très, très vite se mettre dans un sentiment. Et voilà, quand tu arrives et que tu doubles, là, j'ai doublé la mère de Ray Charles, par exemple, dans Ray, avec des scènes extrêmement difficiles, la perte de son enfant, des hurlements, des pleurs, etc. Et tu arrives, il est 9h35 et on te dit, eh ben, maintenant, go, c'est à toi. C'est à toi d'être en pleurs, donc généralement on te laisse quelques minutes le temps de te concentrer, de te mettre dedans, de pleurer réellement, et parce que s'ils pleurent, on pleure, s'ils rient, on rit, enfin on est pareil, on a juste pas la caméra plaquée sur nous, et que du coup, bah voilà, il faut être dedans tout de suite. Et si on n'est pas comédien, ou qu'on n'a jamais pris de cours de théâtre au moins 3 ans dans une bonne école, tu vois, type conservatoire, parce que quand on est en province, il y a des super conservatoires, parce que c'est toujours des valeurs sûres de cours, le problème, c'est qu'on ne peut pas, par expérience, ça fait 40 ans que je fais ce métier cette année, j'ai commencé à 6 ans, et 35 ans que je fais du doublage, tu vois, j'ai commencé à 9 ans. Et ben, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu une personne qui n'a jamais pris un court tête de sa vie et qui double hyper bien quelque chose de nouveau. Je ne parle pas d'imiter, je ne parle pas de ceux qui s'amusent sur des rythmos, tu vois, sur YouTube, à reproduire ce que quelqu'un a déjà préparé, a déjà trouvé, a déjà innové, tu vois. Je parle de vraiment créer un rôle. T'arrives en studio et on te dit, bah voilà, tu recopies ce qu'a fait le comédien américain, mais là, en français, donc avec ce que tu vas apporter de français, justement, avec notre culture, nos intonations, etc. Et bah ou même notre jeu, d'ailleurs. Parce que quand tu doubles une série coréenne, on n'a pas le même jeu que les Coréens. Tu vois, on joue pas aussi... ils sont très expansifs, etc. Nous, on est beaucoup plus dans la réserve. Bon. Donc, du coup, on va amener notre culture, mais notre jeu aussi également. Et voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup trop compliqué, en fait, sans avoir vraiment des bases solides. Donc, nous, on prend des gens qui ont 3 ans de cours de théâtre minimum dans une vraie école, pas le cours du lycée ou tout ça. Tu vois, une vraie école de théâtre avec des vraies formations sur 3 années parce que il y a du boulot. Il y a du boulot pour plein de gens. C'est toujours super de découvrir des nouveaux comédiens, etc. Et bien sûr, comme à l'image, hein, c'est super de tourner un peu, que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent toutes les séries TF1 ou M6. Mais on sait de valeur sûre, de source sûre, par expérience, que quand on n'a pas du tout ce matériel-là et ce bagage-là, et que les gens ne sont pas comédiens, qui ne tournent jamais, qui ne jouent jamais au théâtre, etc., ils percent pas en doublage. Et comme nous, on n'a pas monté cette école pour faire de l'argent, on gagne notre argent en tant que comédienne. Sur la boîte, c'est vraiment par passion qu'on l'a fait, transmission, etc. Du coup, on n'a pas du tout envie de dire aux gens, venez, oui, inscrivez-vous, on va vous prendre les sous. En plus, c'est des formations qui coûtent très cher, mais parce que nous, ça nous coûte très cher. On loue des studios dans Paris, on voulait être dans Paris, etc. Donc, on loue les studios, on paye des ingénieurs du son. Enfin, tout ça, c'est un coût très, très élevé. Et voilà, donc comme on ne fait pas du tout dans ce sens-là, notre but, c'est que les gens qui viennent aient du boulot. C'est vraiment notre but ultime. Et on est très, très heureuse parce qu'on a des gros chiffres, c'est-à-dire qu'on a vraiment 30-35% de nos élèves qui travaillent juste derrière, alors qu'ils n'ont jamais fait de doublage de leur vie, avec 5 jours de formation seulement. Donc c'est vraiment super, on est hyper heureuse et c'est pour ça qu'on l'a fait, quoi. Donc, on demande des vrais prérequis un peu solides, puisque le but est d'accompagner ces gens-là et qu'ils aient du travail derrière. Et on sait que s'il n'y a pas ce bagage-là, ils n'en auront pas. On ne veut pas leur prendre leurs sous.
Ok, hyper intéressant. Merci pour ta...
Je t'en prie. Trop bien. J'aurais une dernière question. Tu as doublé, là actuellement, au cinéma, avec Légendaire.
Oui.
Ça t'a pris combien de temps à doubler ce personnage et ce film ?
Ah bah, Les Légendaires, j'ai un tout petit rôle. Hein.
Ouais.
J'ai vraiment un tout petit rôle. Je fais la mère, je fais Simi. En fait, la mère de Simi, excuse-moi. Samira, la mère de Simi, je me mélange. Et c'est vraiment un tout petit rôle. Donc, moi, j'ai dû rester, je suis restée 2 heures en studio. Quelque chose comme ça, tu vois, c'était très rapide. Et oui, je dirais une petite demi-journée, quoi.
Okay. Mais sinon, en moyenne, tu restes combien de temps Est-ce que le doublage peut durer une semaine ou souvent c'est sur 1-2 jours
Alors non, une semaine non, parce que même si tu as le rôle principal, c'est rare que tu viennes vraiment... Alors le film va se faire en une semaine, voire 10 jours, parfois même 3 semaines si c'est des très gros films. Mais toi, ton rôle, même si tu as un rôle principal, en règle générale, tu viens 2 jours, 3 jours grand maximum. Mais tu fais pas la semaine entière.
Ok. C'est pas comme... c'est pas comme Philippe Pétu et Véronique Augereau où eux, ils restent une semaine à tourner Les Simpsons.
Ils font une série sur beaucoup d'épisodes aussi, c'est différent.
Mais voilà, c'est parce qu'ils ont plein d'épisodes. Donc en fait, en termes de temps de programme, ils ont par exemple 10 heures à enregistrer de programme. Donc ils enregistrent une semaine ou 2 semaines d'affilée même. Mais comme ça, c'est parce que c'est une série et puis ils le font tout d'un bloc.
Ok.
T'avais une dernière question, Rémi ? C'est bon, je peux reprendre la main ?
Oui, désolé, merci.
Du coup, ça fait un peu la transition, ce que tu parlais d'acting, de diriger les acteurs et tout ça. Et je voudrais qu'on parle un peu du métier de directeur artistique de doublage, parce que tu fais ça aussi. Beaucoup de gens ne savent pas du tout ce que c'est que ce métier de directeur artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et quel est ton rôle exactement ?
Oui, alors directeur artistique, c'est un petit peu comme un réalisateur pour le doublage. sauf qu'il n'a pas toute la partie technique à gérer. C'est-à-dire qu'évidemment, sur un tournage, on a vraiment l'équipe technique à gérer, la lumière, le cadre, etc. Ici, il n'y a que la partie jeu, c'est ça que j'adore, il n'y a que l'acting. Et puis un petit peu l'aspect technique quand même pour la synchro, évidemment, si on est synchrone avec la bouche, la synchronisation des lèvres et la projection, etc. Bien qu'on travaille en binôme avec l'ingénieur du son, qui a un rôle très important dans le process, et qui, lui, va justement être aux aguets de tout ce qui de la projection pour respecter la bonne projection originale. C'est s'il chuchote, on chuchote, s'il crie, on crie. Voilà. Donc il faut être complètement, il faut être raccord avec eux. Donc nous, on a juste un petit peu de technique là-dessus en termes de lip-sync et de projection. Mais sinon, c'est vraiment que de l'acting. C'est-à-dire être capable d'analyser le jeu de l'acteur à l'image, comprendre vraiment tout ce qu'il a voulu jouer, ce que le réalisateur justement a voulu lui faire jouer, et nous, avec nos mots à nous dans notre langue, le traduire et de dire, ben voilà, ici, il faut que tu sois beaucoup plus blessé par ce qu'elle t'a dit, beaucoup plus atteint, on sent plus de larmes, on sent plus de colère, on sent vraiment en fonction de la scène. Donc on va diriger le comédien vers le sentiment juste pour marcher avec la version originale.
Ok, trop intéressant. Moi je trouve ça.
Et on va faire un casting aussi, donc ça c'est super, j'adore. Okay. Donc on fait aussi le casting, on nous confie un projet, on reçoit le casting, généralement on fait toujours une recherche de voix, ce qu'on appelle, donc on va rechercher les voix, de savoir qui a doublé qui dans le film, parce que généralement, du mieux qu'on peut, on essaie de garder quand même le comédien qui l'a déjà doublé. Si quelqu'un a déjà doublé 10 fois cet acteur, on va pas le remplacer volontairement, tu vois, on essaie que le public ait une cohérence et on sait que le public aime bien avoir un être attaché aux mêmes voix, etc. Et moi, la première, si je regarde un film et que c'est pas la bonne voix de Julia Roberts, je supporte pas, tu vois, ce serait pas possible. Donc, on essaie de toute façon toujours d'être le plus raccord possible. Et ensuite, on propose des nouvelles voix, des nouveaux castings. Et puis après, c'est le client qui décide. C'est pas nous, c'est eux qui ont le final cut. Mais on propose des nouveaux talents.
Ok, c'est un peu.
Donc, c'est super parce que nous, avec l'école, on en rencontre plein. Et les directeurs artistiques qu'on a, on a une 50aine de directeurs artistiques qui viennent faire cours chez Dub School. Et c'est super parce que du coup, on peut en rencontrer un différent chaque jour. Et puis avoir donc plus de chances de travailler par la suite. Et c'est vrai que moi, je prends beaucoup de comédiens que je rencontre en stage.
Ok, trop intéressant. Bah, merci beaucoup. Et du coup, tu y as un petit peu répondu. Mais du coup, à la maison, Team VF ou Team VO?
Les deux, parce qu'en fait, moi, je suis un cas un peu à part, c'est que je regarde toujours que de la VO quand c'est de l'anglais.
Okay.
Mais parce que j'ai la chance de parler anglais couramment.
Okay.
Mais du coup, je regarde de la VO non sous-titrée. Je ne supporte pas les sous-titres, ça me gâche un film. En fait, je déteste avoir des sous-titres au milieu de l'image. Je trouve que ça pourrit l'image. Et en plus, même si je regarde un film français sous-titré français, c'est sûr que je lis le sous-titre. Alors que je regarde un film français, ça m'attire l'œil. Et du coup, ça me gâche mon moment. Je ne suis pas à 100%, je suis à 90%. Dans le film, j'arrive pas à être à 100% quand j'ai des sous-titres. Donc, quand c'est anglais, je regarde toujours la VO, toujours que de la VO, non sous-titrée. Mais dès que c'est une autre langue que de l'anglais, je regarde toujours la VF. Et donc, sans sous-titre, quoi.
Okay,
parce que j'aime pas avoir les sous-titres. Ouais, ça m'agace.
En vrai, je comprends.
Mais bon, mais j'ai pas de team, tu vois. J'ai toujours trouvé ça étrange. Tu vois, si j'allais faire une émission avec un mec, je sais pas comment il s'appelle, Doug, qui fait que je connaissais pas du tout, qui fait son fonds de commerce là-dessus. D'ailleurs, il ne vit que de ça. Il gagne de l'argent en faisant des vidéos où il critique l'AVF. Et pas que ça, il critique beaucoup. Ça, c'est un critique. Oui, c'est assez étrange, surtout que c'est quelqu'un qui ne travaille pas du tout en cinéma. Donc, il a aucune notion, en fait, de comment on fait un film. Mais il critique les films. Bon, ok, pourquoi pas. Et il critique beaucoup, beaucoup, beaucoup l'AVF, et vraiment énormément. Et c'est son fonds de commerce qui fait comme ça. Et après, il fait des vues. Et puis, les vues lui rapportent de l'argent. Et voilà. Et bref, et c'est drôle, il dit « Ouais, mais nous, il faut faire ça. » Je dis « Mais enfin, mais pourquoi pourquoi pas laisser les gens... » Enfin, c'est comme si je disais « J'adore écouter du rap et que toi, t'en écoutes pas, par exemple, et je te force à écouter du rap. » Ou tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'avais compris, ce truc, tu vois, si tu veux regarder un film en VF, tu regardes en VF, tu regardes en VO, tu regardes en VO. Enfin, en plus, maintenant, on a le choix avec les plateformes.
Donc, non, mais moi, je comprends tout à fait.
J'avais trop... Mais bon, en tout cas, du coup, moi, je me sens pas vraiment dans une team, puisque j'ai envie de te dire, je suis vraiment à 50-50. Tout ce qui est anglais, je vais regarder en anglais. Tout ce qui est autre, je vais regarder en français. Donc voilà, après, j'adore mon métier et puis ça. Et puis, je trouve ça hyper agréable aussi quand, justement, c'est une autre langue, quand je regarde une série espagnole ou coréenne. Même avec les sous-titres, je vais louper pas mal de choses, tu vois. Alors que je sais que si c'est doublé, même si c'est jamais, évidemment, 100%, ce sera jamais complètement la VO. On est d'accord et je ne vais jamais te dire le contraire, même en étant dans, de l'autre côté du micro, tu vois. Mais c'est... Ça s'en rapproche quand même du mieux qu'on peut. Et en France, on a quand même inventé le doublage, inventé la bande rythmo. Et on se casse la tête à être le plus synchrone possible, à mettre des labiales là où il y a des labiales. Ce qu'on appelle labiales, c'est tous les mots qui commencent par un M, un B, un P. Tu vois, toutes ces choses-là, on se casse la tête à l'écriture, à trouver des vannes qui vont nous parler à nous. Parce que t'as de l'humour, ils vont faire une vanne en anglais et nous, ça ne nous parlera pas. Même si t'es bilingue, d'ailleurs, ça peut, si t'habites pas dans le pays, ça va peut-être pas te dire quelque chose, tu vois. Parce que tu n'auras pas la ref, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois, Donald sur Spider-Man, il a placé des vannes en mode genre, cela ne nous regarde pas, tu vois. Genre, il plaçait des références des inconnus. Que même la nouvelle génération regarde en replay, enfin, tu vois, enfin, regarde tu vois, quand ça passe, etc. Et moi, mes filles, elles connaissent et ça les fait marrer. Et tu vois, c'est un peu multigénérationnel. Et si tu n'habites pas en France, tu peux pas vraiment connaître, tu vois, ce genre de choses. Et même si tu parles très bien le français, quoi. Donc un étranger, ça va pas lui parler, mais et donc il y a plein de choses comme ça où nous, dans l'adaptation française, on va vraiment se prendre la tête à mettre une vanne ou quelque chose qui nous parlera à nous français, tu vois.
C'est parce que votre travail, c'est plus que de la traduction, c'est vraiment de l'adaptation au pays.
Oui, exactement. Alors après, c'est pas nous qui le faisons, hein. C'est des
métiers à part. Oui.
Hein, c'est un métier, voilà. C'est des adaptateurs qui sont très souvent complètement bilingues. Et qui, dans la langue, évidemment, qui traduisent, il y en a qui écrivent du coréen, d'autres qui écrivent de l'espagnol, d'autres de l'anglais, enfin, chacun a sa langue et sa spécificité. Et en fait, ils sont déjà bilingues. Souvent, ils ont des référents ou de la famille dans le pays. Donc, ça permet de confirmer exactement telle ou telle vanne qu'ils n'auraient pas pu ne pas comprendre parce qu'ils ne vivent plus dans le pays. Et du coup, on va vraiment se prendre la tête, tu vois, à mettre les termes justes, à mettre... tu vois, enfin moi j'ai le nombre d'auteurs, de copains auteurs qui ont appelé mon père parce qu'il est pilote de ligne à la retraite pour lui dire comment tu dirais ça et tout, parce que bon, l'aviation c'est un mauvais exemple parce que 90% des termes sont en anglais, ils restent en anglais, tu vois. Mais il y en a quand même 10% qu'il faut adapter, et tu vois, pour être au plus vrai. Tu vois, par exemple, des chirurgiens, ils vont appeler des vrais chirurgiens, des médecins et tout, qui vont leur donner vraiment donner les vraies clés, les vrais mots et le vrai vocabulaire, quoi. Donc, c'est vrai que on va vraiment se prendre la tête pour essayer d'avoir des adaptations, des dialogues justes, une synchronicité labiale le plus juste possible, et d'avoir que des comédiens. On est tous comédiens, en fait. Tous les comédiens qui font du doublage sont sur scène, au théâtre, tournent. Enfin, tout le monde est comédien, quoi. Après, t'en as qui, avec le temps, sont confortables en doublage et ne montent plus forcément sur scène, mais par choix, mais ils viennent de la scène, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, donc on va proposer en tout cas ce qu'on peut au mieux dans des conditions de travail extrêmement rapides.
Okay,
tu vois, que Barbie, je l'ai fait en une journée.
Ok, ah
ouais.
Et là, 500 lignes, tu vois. Alors normalement, on aurait dû faire plus. Bon, j'ai fait une journée, j'ai fait 9h30, 22h.
Oui, une grosse journée.
Donc c'est une grosse journée, 9h30, 22h, avec 30 minutes le midi pour manger, 30 minutes le soir. Et c'est tout. Et pas de pause, enfin, tu vois, on en criait, quoi. Mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour enregistrer le film, que moi, la directrice artistique Barbara Tissier, on a l'habitude de travailler ensemble. Elle sait que j'ai l'habitude aussi de doubler depuis des années, donc je vais évidemment plus vite que quelqu'un qui débute. Et du coup, elle a gardé un peu plus de temps pour des débutants qui étaient sur le film. Mais donc, t'imagines, il y a quand même beaucoup de scènes, beaucoup d'émotions à jouer dans une journée, même si c'est une journée de 13 heures. C'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à fournir. Bon, c'est vrai que j'ai bien dormi le soir.
Tu m'étonnes.
Mais alors qu'elle, elle a préparé son rôle pendant un an.
Ouais.
Évidemment qu'on ne va pas te dire « Ah bah attends, on est aussi extraordinaire, j'ai pas 5% du talent de Margot Robbie. » Mais je fais du mieux que je peux pour, en tout cas, avoir que les gens aussi, justement, qui apprécient la VF, puissent profiter de l'image, puissent profiter d'un film... et de ses références et puis du film, sans avoir justement à lire des sous-titres à toute berlingue comme s'il était un prompteur de journaliste, tu vois.
Et ben ça marche, bravo.
Moi j'ai une dernière question, Dorothée.
Oui,
tu disais que tu es maman, et est-ce que tes enfants te regardent et te critiquent ou pas à l'écran? quand ils te voient un film, quand tu doubles un dessin animé, un Disney, est-ce qu'ils te font des petits retours?
Elles disent pas grand-chose, pour être honnête. Elles vont regarder, par exemple, tu vois, les mondes de Ralph que j'adore. C'est pour moi un de mes rôles préférés, tu vois, de ma vie. Elles vont regarder, elles vont rigoler éventuellement, tu vois, sur ce qui se passe. Elles ne me disent pas trop « Oh, c'est super, maman, bravo !» ou « Oh, c'est pas bien !» C'est peut-être parce qu'elles m'entendent depuis qu'elles sont nées.
Oui.
Du coup, tu vois, j'ai l'impression qu'elles s'en foutent complètement. C'est parfois, je passe à côté d'elles et puis je vois la télé allumée et puis d'un coup, je sais pas, j'entends ma voix et puis je dis « Oh, tiens, c'est maman !» Elles sont en train de regarder le dessin animé, elles font « Ouais, ouais !» Elles s'en foutent, j'ai l'impression que ça leur fait ni chaud ni froid, tu vois. J'ai l'impression qu'elles sont pas trop. Non, j'espère qu'elles sont fières de moi, hein, mais c'est vrai qu'elles me le disent pas beaucoup.
Bon, bah, merci beaucoup, Dorothée. C'est hyper intéressant tout ce que tu nous as dit. Donc, merci pour ce moment d'échange.
Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à vous pour ces questions aussi très intéressantes.
Ah, bah, j'espère. Je vais pas te mentir, j'avais un peu l'impression en me disant waouh, elle a dû tellement faire d'interviews, je vais lui poser des trucs tellement, elle va répondre 12 fois la même chose.
Non, franchement, il y avait plein de questions hyper intéressantes.
Ok, bah merci beaucoup à toi. Donc en ce moment, tu es au cinéma avec Hurlevent et Les Légendaires, que j'ai loupé au ciné, puisqu'on a eu une fermeture du cinéma à cause de dégâts des eaux de la Maine qui déborde.
Non.
Donc j'ai pas. Ouais. Merci beaucoup, bravo pour tout ce que tu fais. Moi personnellement, je suis un peu team VF pour le coup. Je trouve qu'on a d'excellents doubleurs en France dont tu fais partie. Donc merci énormément d'avoir accepté.
Merci à vous, c'est trop gentil.
Et Dorothée, n'hésite pas à nous dire quand tu viens à Angers, on sera heureux de t'accueillir dans nos studios.
Mais carrément, il voulait peut-être que je refasse un atelier l'année prochaine.
Eh ben go, enfin nous on est chaud.
Donc, redis-lui, mais moi je viens avec grand plaisir, j'ai adoré. En plus je connais bien Angers, ça me rappelle mon enfance parce que j'avais mon oncle et ma tante qui y habitaient. Donc j'y allais assez souvent avec mes parents. Et donc j'adore, donc avec grand plaisir, l'année prochaine ou plus tard.
Eh ben parfait. Bon, on va rappeler champ contre champ alors, pour leur dire, et de toute façon Dorothée, on reste en contact.
Oui.
Et à très bientôt, merci à toi.
Merci infiniment Dorothée.
Merci.
Bonne journée, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette interview et les podcasts de l'émission Clap & Chat sur radio-g.fr, rubrique Clap & Chat. Et sinon, on se donne rendez-vous les mercredis à 19h sur le 101.5 FM.